If you hold a stone, hold it in your hand. If you feel the way.
Bonjour, je m'appelle Catherine Hoog et je suis commissaire d'expo au Kunsthaus de Zurich. Ce podcast a été publié dans le cadre de la rétrospective Gia Clark au Kunsthaus, visible du 14 novembre 2025 au 8 mars 2026. Le show a été réalisé en coopération avec la Neue Nationalgalerie Berlin et est la première exposition complète de l'artiste brésilienne dans l'espace germanophone. En tant que représentant du néoconcrétisme, Clark a d'abord élargi l'image dans l'espace, puis la sculpture a pris une référence corporelle de plus en plus forte, jusqu'à ce que l'œuvre d'art physique comme pièce unique soit finalement abandonnée dans les années 1970. Les objets et installations de Clark permettent à l'audience de participer activement à leur création aussi bien que médiation et interprétation. L'artiste même disait à ce sujet « Pour moi, créer de l'art, c'est se développer en tant qu'être humain, ce qui est la chose la plus importante. L'art ne devrait pas imiter un nom ou concept quelconque. » Fin de citation. Dans ce podcast, en plusieurs parties, des contemporains et spécialistes tels que Alexandra Clark, Yvan Limbois ou Iron Small mettent en lumière la grande actualité de l'œuvre de Clark. Bonne écoute.
Bonjour, chères auditrices et chers auditeurs. Je suis très ravie d'accueillir Jean da Silva de Paris, ou qui est à Paris pour l'instant. Moi, je suis à Zurich, donc on a un entretien par virtuel, entre guillemets. Et en même temps très réel parce que nous nous entendons et nous nous voyons très bien. Et nous allons parler de Ligia Clark et de sa pédagogie pendant les années 90, 70, on dit en Suisse, oui. Ou 71, voilà, je vais dire 70, excusez-moi, c'est plus simple pour moi comme Suisse romande. En tout cas, Jean da Silva est professeur enseignant en arts plastiques à Paris 1 Panthéon-Sorbonne et a dirigé aussi pour plusieurs années l'unité d'enseignement. Il connaît cette importante institution artistique et universitaire depuis 1971 et donc ça c'est la période où Ligia Clark était très active et aussi de manière très spectaculaire, on va dire, présente à Paris dans ces lieux. Nous allons aborder 4 à 5 questions qui touchent vraiment pertinemment à toute cette période. Et voilà, donc en février de cette année, le 21 février pour être exact, vous avez fait une conférence à cette même institution, aussi appelée Saint-Charles, à la Sorbonne. Et c'est là où nous nous sommes rencontrés. Je me suis posé la question, et donc j'étais enchantée qu'il y ait cette conférence, parce qu'en guise de préparatif à notre rétrospective dédiée à Ligia Clark à Berlin et bientôt en été et à Zurich en automne-hiver 2025, j'étais donc très ravie de voir qu'il y ait des recherches immanemment actuelles qui se font. Alors, je voulais vous poser la question, pourquoi cette conférence à cette date précise et pas plus tôt, voilà, comment ça s'est fait?
Alors, en effet, cette période donc, d'enseignement de Ligia Clark, qui a commencé donc à Paris en novembre 71 et qui s'est terminé en février 76, a été jusqu'ici relativement peu étudiée. Elle est souvent mentionnée. Beaucoup de photographies sont montrées parce que Ligia Clark avait très très bien documenté son enseignement, mais elle est peu commentée. Il est intéressant de voir dans quel contexte l'intérêt pour Ligia Clark et son enseignement est apparu. C'est dans un contexte donc, d'études féministes. Le premier groupe d'études de genre s'était réuni en décembre 2020 et en s'intéressant donc aux femmes artistes enseignantes. Donc, il y a des raisons assez objectives qui conduisent à ce qu'aujourd'hui, un certain nombre de chercheuses, en particulier, et aussi de chercheurs, s'intéressent donc à cet enseignement de Ligia Clark. Pourquoi est-ce que ça n'a pas aussi été abordé plus tôt? C'est que c'est une période où Lydia Clark l'a peu produit, peut-être même pas du tout, quelques objets semble-t-il à Paris, et où elle s'est exclusivement consacrée donc à l'enseignement et à son analyse, l'analyse avec Pierre Félida. Et c'est donc une période sans objets. Et les historiens de l'art n'aiment pas l'absence d'objets. Il leur faut toujours quelques reliques et ils n'aiment pas trop ce vide. Deuxièmement, ce genre d'études sur l'enseignement suppose que l'on conduise un travail en archives, un travail souvent un peu ingrat, avec des sources difficiles à trouver. Ça s'apparente davantage à un travail d'historien, d'historien de l'art. Et jusqu'ici, les historiens de l'art, donc, qui, il faut convenir que le discours des historiens de l'art concernant l'art contemporain reste le plus souvent célébratif et manque certainement d'une dimension critique. Il se trouve qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle génération donc, de chercheuses et de chercheurs, aussi bien en histoire de l'art que dans les sciences sociales, qui ouvrent les différentes méthodes et qui, il faut convenir aussi, les recherches empiriques sur l'art contemporain, découvertes d'artistes, découvertes d'œuvres, découvertes de mouvements sont aujourd'hui bien accomplies et abordent donc des domaines qui jusqu'ici étaient beaucoup plus marginaux, comme celui de l'enseignement. Et les recherches sur l'enseignement en art se développent très bien en Grande-Bretagne, en Allemagne, et elles ont commencé aux États-Unis.
D'accord, donc c'est vraiment aussi un miroir de l'historiographie.
C'est un miroir de l'évolution intellectuelle de l'époque.
Oui.
Et en oui. Sens, d'ailleurs, la position féministe est intéressante parce qu'elle donne un éclairage très particulier sur des choses oubliées qui, sans ce point de vue, seraient restées occultées. Donc, ces études ouvrent des champs de savoir. Ce sont des études qui produisent du savoir. Contrairement à ce que certains pensent, ce ne sont pas simplement des études idéologiques. C'est des études qui concourent à construire donc une connaissance générale.
D'accord. Et si je comprends bien, ou si je me souviens bien aussi, c'était en fait aussi une conférence interdisciplinaire. Donc, il y avait bien sûr des historiens de l'art, il y avait des artistes, mais il y avait aussi d'autres disciplines, si je me souviens bien, n'est-ce pas?
Oui, alors ça, c'est le mariage des disciplines était une caractéristique de l'UR Arts Plastiques et Sciences de l'Art, où est intervenu Lydia Clark.
D'accord.
Cette UFR, donc, enfin UER à l'époque, a été créé au lendemain de mai 68. C'est vraiment d'ailleurs une production de mai 68.
Ça, on va en revenir plus tard, peut-être oui. Un peu précisément. Je voulais vous poser la question, parce qu'on se pose un peu la question de comment ça se fait que Lydia Clark atterrisse, entre guillemets, à la Sorbonne, qui est quand même une université, on va dire, qu'il y a beaucoup d'artistes qui veulent enseigner. Et bien sûr, Lydia Clark avait déjà une certaine... était connue, mais elle était aussi, c'était pas, on va dire, il y a des gens qui ont dû s'engager pour la faire venir comme artiste enseignante là-bas. Et la figure de Bernard Tessèdre a été très importante. Est-ce que vous pourriez un peu décrire comment ça s'est passé entre Bernard Tessèdre et Lydia Clark et aussi les autres professeurs à l'époque, quel était le nombre d'heures qu'elle avait enseigné, quel jour, un peu les choses pratiques comme ça, comment était son statut à l'université?
Alors, Lydia Clark n'a jamais enseigné à la Sorbonne, c'est-à-dire elle n'a jamais enseigné dans les bâtiments de la Sorbonne. Elle a enseigné donc au début au centre Censier, qui était une annexe de l'ancienne faculté de lettres. Elle a ensuite enseigné donc dans un centre qui s'appelait le Centre Saint-Charles, qui abrite encore aujourd'hui d'ailleurs l'enseignement des arts plastiques. Ça n'a pas changé depuis 1972, donc, et qui était à l'époque, quand elle y enseignait, une usine désaffectée, c'est-à-dire quelque chose d'assez particulier. L'UER Arts Plastiques a commencé donc au lendemain 68 avec rien. C'est-à-dire il y avait initialement un enseignant, quand elle est arrivée, il y en avait trois, comme enseignant dit permanent, c'est-à-dire avec des titres universitaires, et recrutés comme tels. Tous les autres enseignants, donc, étaient ce qu'on appelle les chargés d'enseignement, c'est-à-dire des gens qui étaient payés à l'heure et qui assuraient un ou deux cours, donc, par semaine, au sein, donc, de cette composante de l'université Paris 1, qui était une université plutôt dominée par les juristes, par les historiens et par les philosophes. Les arts plastiques étant une petite portion un peu un peu incongrue à l'époque d'ailleurs, qui avait été voulue par le président de l'université, par le recteur et par la vice-présidente de l'université. Donc, et il y avait, quand elle est arrivée, 1000 étudiants. Donc, 3 enseignants pour 1000 étudiants, ce n'était pas beaucoup. Donc, il a fallu recruter. Recruter donc au sein même de l'université, dans l'UER de philosophie, recruter à l'École des Beaux-Arts. Il y avait un groupe d'enseignants en rupture avec l'école qui s'était constitué et qui a eu un rôle assez moteur dans la création de l'UER. Et puis aussi des enseignants d'autres écoles d'art appliqué, des gens qui n'avaient pas beaucoup de chercheurs du CNRS, puisqu'il y avait un institut d'esthétique qui a fourni un grand nombre d'enseignants, et puis des artistes. Des artistes que Bernard Tessèdre est allé chercher. Là, j'ai demandé à Bernard Tessèdre comment il avait pu rencontrer Ligia Clark et comment il avait pu la faire arriver, intervenir dans l'UFR. Il n'avait plus de réponse à la question. Il faut savoir que Ligia Clark était connue à l'époque, à Paris, en particulier dans le milieu qui s'intéressait à l'art contemporain, qui était relativement restreint, mais qui était très structuré, et où les rencontres étaient donc assez faciles. Il y avait eu un numéro de Robot, la revue de Jean Clay, qui avait été consacré. Le numéro suivant avait aussi contenait aussi un article important sur Ligia Clark. Elle avait fait un triomphe à la Biennale de Venise précédente. Donc, c'était quelqu'un de connu, que moi, en tant qu'étudiant, en 71, je connaissais comme artiste. Bon. Et donc, tout simplement, de façon très informelle, au cours de rencontres, vraisemblablement par l'intermédiaire de Jean Clay, malgré tout, Bernard Tessèdre a demandé à Ligia Clark si elle voulait intervenir. Elle était d'accord pour intervenir. Le seul critère de recrutement, si on peut parler d'un recrutement d'artiste, c'était surtout qu'il ne soit ni académique, ni encore englué dans l'esthétique de l'École de Paris, qui était dominante aux Beaux-Arts. L'essentiel, c'est que ce soit des artistes en rupture avec l'esthétique académique, qui était encore très dominante dans l'enseignement des arts en France, qui était gérée non pas par l'Éducation nationale, mais par le ministère de la Culture. Ça s'est donc fait assez simplement comme ça, et elle n'a pas été la seule artiste à enseigner à l'UER plastique. Tout petit peu après, a été recruté Michel Journiac, qui lui a eu un rôle vraiment moteur au sein de l'UFR. Donc, Ligia Clark venait à assurer la première année un seul cours de 3 heures, la deuxième année 2 cours de 3 heures, et assez régulièrement, donc, en bougeant un petit peu dans les programmes. Il faut savoir que les programmes étaient assez définis de façon assez large à l'époque, et que on plaçait en quelque sorte les intervenants dans le programme en fonction de leurs compétences. Et Ligia Clark, donc, était intervenue dans les arts autres, d'abord entre danse, théâtre, expression corporelle, puis elle est intervenue ensuite dans expression plastique, ce qui permettait de faire beaucoup de choses. Et donc, l'intérêt de cette composante, c'est que les artistes intervenants avaient toute liberté. Ils pouvaient faire absolument tout ce qu'ils voulaient avec les étudiants, dans le cadre de leurs cours, enfin, ce que vous voulez, en tant qu'enseignant, bien sûr. Il y en a quelquefois, il y a quelques-unes des débordements. Donc, ça lui a laissé carte blanche. Et si, comme beaucoup d'artistes, elle a d'ailleurs intervenu dans l'UFR, ce n'était pas pour un intérêt financier, c'était à l'époque payé environ l'équivalent de 30 euros de l'heure, à peine. Donc, c'était vraiment minime, payé généralement en fin d'année, c'est-à-dire au mois de juin, quand c'était payé. Donc, c'est par simple intérêt aussi, volonté d'enseigner, volonté de rencontrer des gens de 20 ans, volonté d'ouvrir sa pratique vers vraiment un échange avec des personnes qu'elle a, je pense, choisi d'enseigner, et elle a beaucoup investi cet enseignement.
Il y a toute une rangée de... Aujourd'hui, des performances, ou on va dire des actions, ou Ligia appelait ça aussi des propositions iconiques qui ont marqué aussi un peu l'écriture de l'histoire de l'art avec un caractère performatif. Par exemple, Cannibalismo de 73-74, qui est une performance qui s'est justement faite avec les... Une action qui s'est faite avec les étudiants à Saint-Charles, mais aussi Anthropophagica de 75, la baba anthropophagica, par exemple, aussi la tête collective, qui est
la dernière proposition avant de partir.
Voilà. Peut-être que si, à titre exemplaire, vous pourriez un peu décrire l'interaction qui s'était passée et aussi, je ne sais pas si vous avez eu la chance de participer à une de ces propositions, mais en tout cas, ils ont fait le tour et il y a eu des rumeurs, comment ça s'est passé, et les gens, des curieux qui sont venus voir. Est-ce que peut-être à titre exemplaire, vous pourriez un peu décrire le narratif qui s'est construit autour de ces performances ou justement ces propositions.
Alors, une des premières photographies que j'ai pu trouver donc, de Lysia Clark enseignant, c'est une photographie qui a été prise en extérieur et dans le jardin du tribunal administratif de Paris, qui est situé dans le Marais. Pas très loin d'ailleurs de la Cité des Arts où elle avait séjourné précédemment. C'était là qu'elle a connu ce lieu. Et on la voit photographiée par le photographe de Andrade, d'ailleurs. On la voit en train d'inciter des étudiants à manipuler donc une sorte de toile d'araignée composée de plastique et de fil. C'était en extérieur. Et c'est vraisemblablement le premier cliché qui existe encore aujourd'hui. Et si elle intervenait en extérieur, je me suis posé la question, c'était peut-être parce qu'il y avait le choix d'intervenir dehors, ça se faisait assez souvent dans le cas des enseignements de l'époque, mais c'est aussi tout simplement parce qu'il n'y avait pas de salle. Et que quand elle est arrivée en novembre-décembre, l'UER ne disposait pas de salle d'enseignement qui pouvait l'accueillir facilement. Les enseignements étaient dispensés dans beaucoup d'autres institutions, à la Sorbonne, bien sûr, il n'y avait pas les salles pour, à l'École spéciale d'architecture, à l'École des Beaux-Arts, là on serait peut-être pu se faire, mais elle était trop en rupture par rapport à l'École des Beaux-Arts, qui était tenue quand même par des plasticiens. Et donc, il n'y avait pas de salle. Alors, il y a eu ensuite des salles qu'on appelait les salles numéro 14 et 18 au rez-de-chaussée, une grande double salle où elle a pu intervenir, et on voit très bien, d'ailleurs, sur les photographies, comment le mobilier était repoussé donc, dans un coin de la salle pour qu'elle puisse intervenir. Et puis ensuite, elle a intervenu au Centre Saint-Charles. Le Centre Saint-Charles, donc, c'était une usine désaffectée qui était située dans le 15e arrondissement, qui est toujours d'ailleurs située dans le 15e arrondissement de Paris, et qui, à l'époque, avait permis de mettre les étudiants d'art plastique, qui étaient un petit peu remont peut-être, de les mettre un petit peu à l'écart, entre autres. C'était aussi, paraît-il, une tête de pont pour l'installation d'un grand centre. Et là, c'était une usine. C'est-à-dire, c'était un squat avant l'heure. C'était entre la factory, les squats à venir, et elle intervenait, et ça je m'en souviens pour avoir non pas participé, mais croisé en quelque sorte son groupe d'étudiants en action. C'était une énorme salle, qui faisait presque 30 mètres de long, avec des piliers, et elle intervenait donc dans un coin de la salle, un bout de cette salle, donc, et c'était un lieu ouvert, c'est-à-dire on pouvait rentrer, à l'autre bout il pouvait y avoir un cours sur la musique du jazz, à l'autre coin il pouvait y avoir un cours sur la chromatologie, et puis il y avait l'endroit où Lysia Clark donc, faisait évoluer ses étudiants, faisait des propositions aux étudiants. C'était des cours assez structurés, c'est-à-dire qu'il y avait deux types d'interventions, deux types de propositions, des propositions individuelles où les étudiants intervenaient à deux, en tout petit groupe, souvent en couple, des petites expérimentations là, où les étudiants d'ailleurs pouvaient trouver pas mal de place. Et puis il y avait des propositions beaucoup plus construites où elle arrivait d'ailleurs avec un certain nombre d'éléments préfabriqués que les étudiants étaient conduits à utiliser, où elle occupait un rôle beaucoup plus central. Bon, précédemment c'était comme un cours, donc il y avait des étudiants seuls ou des couples d'étudiants ou des trios d'étudiants qui échangeaient. Et puis, il y avait des moments, sur 3 heures on peut se le permettre, des moments où il y avait quelque chose de beaucoup plus structuré, conséquent. Et là, d'ailleurs, c'est ces séances-là qui sont documentées par la photographie. Donc, elle faisait venir un photographe à ce moment-là. Alors, Saint-Charles, c'était un lieu extrêmement ouvert. D'ailleurs, on parlait de Saint-Charles, on a même parlé de faculté Saint-Charles. Alors, ça ne désigne que le nom du centre qui vient tout simplement du nom du quartier de la rue Saint-Charles, parce qu'il était situé à proximité de cette rue. Et donc, c'était un lieu ouvert. Donc, il y avait des concerts de free jazz. Un jour, il y a Michel Journiac qui a amené la guillotine Grandeur Nature, qu'il avait reconstituée, mais en formica blanc. Et pendant toute la soirée, des étudiants ou des enseignants sont passés sur la guillotine. Bon, heureusement, le fer était bien fixé. Comme il n'y avait pas de mobilier adapté, les étudiants travaillaient sur les murs, sur du papier qui était collé, des grands papiers comme du papier peint qui étaient collés sur les murs, ou travaillaient au sol. Donc, il y avait toujours des choses qui se passaient. Et donc, c'était un des rares lieux à Paris, finalement, où il y avait une pratique des arts ouvertes qui tenait compte du corps, qui tenait compte du mouvement, qui tenait compte, qui jouait sur les limites de l'art. Hein. C'était un milieu très anti-art que le milieu de cet UFR. Et donc, il y avait des gens qui passaient. Des gens qui passaient par curiosité intellectuelle, par curiosité, simple curiosité. Parmi les gens connus, bien sûr, il y a eu Jean Clair, qui assez régulièrement passait à l'UFR. C'était aussi un ami de Bernard Tessette, je connaissais très bien à l'époque. Après, Jean Clair a pris des positions qui sont toujours restées en relation. Il y avait le Michel Durand, galeriste, qui était à l'époque en DEA à l'EHS, à l'École pratique des hautes études, donc une autre institution qui est de façon plus théorique, était très novatrice dans le domaine des études sur l'art, et qui a participé donc de façon active donc aux séances donc proposées par Ligia Clark. Il y a eu des articles dans Jean-Luc Moulin, mais qui lui était inscrit, donc un peu plus tard d'ailleurs, qui était inscrit à l'UR. Donc, comme c'était assez fréquent, il était assez fréquent à l'université que l'on passe comme ça d'un cours à l'autre. Il y avait tout un itinéraire intellectuel où on retrouvait toujours un petit peu les mêmes personnes. On passait du cours de Barthes au Collège de France, au cours de Jacques Lacan au Centre Panthéon, et puis éventuellement on allait faire un petit tour au Centre Saint-Charles. Parce qu'il s'y passait des choses, tout simplement.
D'accord, donc ça, c'est tous des noms encore aujourd'hui très connus, comme vous avez mentionné Barthes, Lacan, j'en sais rien, peut-être Guattari, Deleuze, voilà, tout ce contexte qui est encore très…
Il y avait Vincennes pour Deleuze.
Vincennes,
l'écouter oui, à Vincennes, voilà. Donc. Oui. Et le public donc du cours de Deleuze, où j'y allais deux, trois fois, était un public extrêmement divers. Il y avait même des militants, à l'époque on ne disait pas LGBT, mais des militants homosexuels qui mangeaient la soupe au coin de son cours. Enfin, c'était assez folklorique quand même. Bon.
D'accord. Donc, dans ce sens, vous m'amenez déjà à ma prochaine question. Ce sont en fait deux questions en une question. Après, j'ai une question, c'est parce que on parle de post-mai 68 d'une part, donc bon, peut-être c'est une question un peu obsolète, mais je me suis demandé s'il n'y avait pas eu mai 68, est-ce que ce genre de cours aurait pu avoir lieu est-ce qu'il y avait, c'était nécessaire d'avoir cette disruption de 68 pour avoir ce genre de cours d'art et d'art, comme le faisait Ligia Clark? D'une part, cette question-là, mais aussi d'autre part, je me suis posé la question à quel point on sentait aussi l'anxiété, parce que quand même, il y avait la dictature au Brésil. Et Ligia Clark, Atena Novelloso, Helio Itisica, j'entends, il y avait comme une communauté d'artistes en exil, plus ou moins direct. Est-ce que c'était, on en parlait peut-être pas directement, mais est-ce que c'était quand même aussi un moteur pour faire ce genre d'art, à votre avis, un art plutôt éphémère et pas saisissable pour une censure potentielle? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a des témoignages sur ce sujet plutôt?
Alors, il y a deux questions, donc... La première question, c'est sur mai 68. Ben, on peut considérer que l'UR d'art plastique n'aurait pas existé tel qu'il a existé sans mai 68. Initialement, effectivement, cet UR a été destiné à former les enseignants du secondaire. Très, très vite, donc, il a outrepassé donc, ce rôle pour devenir aussi un lieu de recherche en art, et non pas sur l'art, une recherche dans le domaine de l'art et avec des moyens artistiques. Et devenir donc un cursus universitaire qui, aujourd'hui d'ailleurs, s'est beaucoup autonomisé par rapport à la vocation d'enseignant. Il faut savoir que les premiers programmes donc, de cet UFR, les propositions de programme, ont été mises par des étudiants, et non pas par des enseignants, qui se sont réunis en commission pendant les événements de 68. Et puis, ces étudiants se sont retrouvés, pour certains, dans certaines commissions, cette fois-ci organisées par le ministère de l'Éducation nationale, donc, afin d'établir des programmes. Et on a retrouvé très, très longtemps dans les textes officiels des traces verbales des propositions des étudiants. Et ces étudiants, donc, étaient pour beaucoup soit issus d'une école qui précédemment formait les enseignants donc, en dessin plastique, qui s'appelle l'école Claude Bernard, complètement obsolète et qui ne correspondait plus du tout, pour d'autres à Nanterre. Il y avait relativement peu d'étudiants des Beaux-Arts qui se sont toujours beaucoup méfiés d'un enseignement un petit peu construit et puis surtout déstructuré, parce que les étudiants des Beaux-Arts tenaient beaucoup à leurs ateliers, beaucoup à leurs traditions, beaucoup à une esthétique qu'aujourd'hui on considère comme surannée et étaient encore très englués comme référence ce qu'on appelait la Nouvelle École de Paris. Et il est vrai donc que là, Bernard Tessèdre a eu un rôle vraiment très, très, très déterminant en allant chercher justement des enseignants artistes totalement en rupture et pendant très longtemps, totalement en rupture avec tout ce qui pouvait relever donc d'un enseignement académique.
Il y avait quoi, il y avait qui comme autre artiste, par exemple ?
Un peu plus tard, donc, il y a eu Neil Leiter, il y a eu Léa Loublin. Pour les permanents, il y a eu Paul Armangette. Dans les enseignants vacataires, il y a eu… alors justement, c'est intéressant parce que Julio, l'artisinéticien, zut. J'avais son nom, puis il m'échappe. Je lis un peu, j'ai des noms qui m'échappent. Qui est d'origine argentine, d'ailleurs. Julio Leparc, bien sûr. Il y avait d'ailleurs un grand nombre d'enseignants, artistes ou pas, mais pour beaucoup artistes, qui étaient des artistes étrangers. Et il y avait une vraie conscience, bien sûr, de politique au sein de cette composante. Et il est vrai que aussi bien les étudiants que les enseignants étaient au courant du régime politique brésilien, aussi grec. Un peu plus tard, il y a eu une exposition organisée à Saint-Charles sur la torture, donc dans la dictature grecque. Cet UFR a aussi soutenu l'opposition chilienne. Il a accueilli donc des enseignants chiliens. Donc, il y avait des liens ouverts, reconnus, presque militants, donc, d'opposition donc, aux dictatures et aux dictatures d'Amérique latine. Est-ce que ça a déterminé une forme d'enseignement particulière ? Je ne le pense. Sincèrement, je ne le pense pas. Je ne le pense pas parce que quand on regarde ce que chacun de ces enseignants pouvait proposer, les propositions étaient extrêmement différentes. Julio Leparc faisait un atelier de peinture politique, donc on faisait de la peinture. Léa Loublin faisait plutôt des installations, un enseignement assez ouvert, comme beaucoup de gens, d'ailleurs, dans cette composante à l'époque. Et tout ceci, quand même, était extrêmement joyeux. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas le sentiment pesant d'un militantisme comme il a pu y en avoir un dans l'opposition à Grivetam, qui a été un des déclencheurs de 68, c'était un militantisme qui connaissait bien les situations politiques, mais qui, dans son expression, restait en France assez joyeux, assez ouvert, avec des propositions très constructives. Donc je ne pense pas que ça ait influé sur les formes d'enseignement, mais il est vrai qu'à ce moment-là, on découvrait en France des artistes comme Boyce, par exemple. On avait tous un peu en tête, même si on ne le connaissait pas très bien à l'époque, le Black Mountain. On connaissait assez, bon, bien sûr, il y avait le Bauhaus, mais c'était un petit peu vieux, même s'il y avait un ancien élève du Bauhaus qui enseignait. Et puis, on connaissait ce qui se passait avec Boyce à Düsseldorf.
Ce qui était aussi plus ou moins c'était à la même époque, c'était dans les années 70, ouais.
C'était à la même époque, on découvrait ça, on le découvrait. Moi, j'ai découvert Boyce, j'avais 16 ans, donc ça devait être en 69-70. Bon, j'ai découvert Boyce à Darmstadt, et je pense que je n'étais pas les seuls. Et puis, il y a eu Documenta 5 en 72, qui a été extrêmement marquant. Qui a été précédé d'ailleurs par la Biennale de Paris de la même année, qui a promu l'art conceptuel, les performances, le cinéma. À l'époque, on appelait ça le cinéma underground. Bon, ou cinéma d'artiste. Même dans le programme, d'ailleurs, ça figurait comme cinéma d'artiste. Et à ce moment-là, c'est là que certains, dont moi d'ailleurs, avons découvert des cinéastes totalement inconnus, comme Kenneth Anger, comme tous ces artistes, donc Mikas et compagnie. On les a découverts à cette biennale. Et puis après, il y a eu Documenta, où on était nombreux à aller à Documenta, ou au moins à voir le catalogue, sous mes yeux d'ailleurs. Donc, il y avait une volonté de s'approprier tout ça. D'autant plus que les étudiants qui étaient là ne se destinaient pas à être des artistes. C'était même ils se déclaraient comme anti-artistes, contre l'art, opposés à l'art. Donc, il n'y a pas nécessité de faire des œuvres qui pouvaient être transmises en tant que telles, qui pouvaient être conservées. C'est ce qui explique peut-être qu'on ait aussi peu d'archives, d'ailleurs, sur les productions de l'UR art plastique. Le cours de Lizia Clark, je le répète, est le mieux documenté de tous. Et peut-être même, je dirais, presque le seul, de toute l'histoire de l'UR. Je me suis remis personnellement à documenter certains de mes cours, mais très tardivement, dans les années 90.
Ça, donc, c'est intéressant. Mais peut-être mieux parce que on doit malheureusement bientôt clore notre conversation très passionnante, mais on a arrivé à un petit, compte-rendu. Voilà, donc je voulais vous poser la question, essayer peut-être de répondre très concentré en deux phrases de notre perspective 2025, en regardant en arrière sur les années 70. Quelle est la contribution restante de la période que Lizia Clark a passé à Paris? Qu'est-ce qu'on peut en retirer aussi pour la production artistique aujourd'hui? Qu'est-ce qui parle aux artistes aujourd'hui du travail que Lizia Clark a fait à l'époque? Est-ce que c'est purement historique aujourd'hui, ou est-ce qu'il y a toujours un cœur ou un noyau d'inspiration à votre avis? Moi, je dis que oui, puisque sinon on ne ferait pas l'exposition chez nous, mais qu'est-ce que votre perspective, j'aimerais entendre.
Il y a une question qui reste à creuser du point de vue de questionnement sur l'enseignement des arts, sur l'enseignement des pratiques artistiques, et que d'une certaine façon, à sa façon, Lizia Clark aborde. Quand Lizia Clark enseignait à l'UR d'art plastique, comme je dis, elle a peu produit, pratiquement pas. Et parallèlement, elle conduisait un travail d'analyse avec Pierre Fédida. Je crois que là, il y a une relation intéressante entre pratique d'enseignement et pratique de l'analyse. Les thématiques qu'elle proposait, l'enveloppement, l'accouchement, l'ingestion, la déglutition, tout ça autour du corps, bien sûr, sont des thèmes qui peuvent être abordés dans une analyse. Et on peut penser qu'il y avait un va-et-vient entre cours et séances, donc sur le divan. Et contrairement à d'autres enseignements très, très borderline qu'il y a pu y avoir dans cette composante, les cours de Lizia Clark étaient très structurés et jouaient sur les limites, certes, mais de façon très, très contrôlée. Et on peut penser que la psychanalyse ait alors joué le rôle de contrôle de son activité d'enseignement, son activité ayant pu apporter des éléments dont elle pouvait travailler dans le cadre de l'analyse. C'est-à-dire, la psychanalyse pouvait en quelque sorte mettre de la distance dans la relation que Lizia Clark pouvait avoir avec les étudiants, à qui elle demandait beaucoup d'investissement, à qui elle demandait aussi de prendre des risques. On pourrait résumer en disant que dans une analyse, on travaille sur soi et pour soi, et dans une pratique pédagogique, on travaille en tant qu'artiste avec les autres et pour soi. Et c'est très frappant, donc, avec Lizia Clark, dont on peut dire qu'elle considérait sa pratique de l'enseignement comme une pratique artistique, d'où sa documentation très importante, mais où elle avait pleinement conscience qu'elle n'était pas la seule à prendre des risques et qu'elle devait entretenir donc, une certaine distance éthique avec les étudiants avec qui elle ne pouvait pas se permettre n'importe quoi, n'importe comment. Voilà ce qui aujourd'hui, pour moi, est encore un problème important quand on s'intéresse à la question de l'enseignement. Et on retrouve des questions presque sociétales d'aujourd'hui, quand on voit dans certaines pratiques comment il peut y avoir des abus d'autorité vis-à-vis donc des gens qui sont subordonnés, et en particulier comme étudiants. Donc, elle permet de penser, disons, des questions qui aujourd'hui sont tout à fait d'actualité.
Voilà, donc elles sont tellement d'actualité ou en même temps aussi ont un côté intemporel, on va dire.
Malheureusement, oui.
Aussi en même temps, malheureusement, voilà, donc dans le sens qu'il y a une historisation, comment on dit ça, parce que les musées en général ne sont pas trop ouverts au processus contemporain. Le Kunsthaus, c'est un musée d'art qui n'est pas d'art vivant, c'est un musée d'art plutôt conventionnel, on va dire. Néanmoins, on est ouvert à cet artiste et à ses pratiques très. Voilà, c'est aussi une première les pays germanophones, qu'on montre vraiment côte à côte son œuvre plastique, son œuvre de peinture et son œuvre plutôt performative de proposition. Voilà. J'ai trouvé notre entretien très, très instructif, passionnant. Ça donne plein de nouvelles idées dans lesquelles directions on pourrait encore discuter dans le futur. Je suis certaine qu'il y aura beaucoup d'autres discussions à venir. Donc, je vous remercie pour cet entretien aujourd'hui. Et voilà, on est curieux de voir comment ça va se faire et se développer avec l'héritage passionnant et important, à notre avis, de Ligia Clark. Merci beaucoup.
Merci beaucoup de m'avoir invité. Ça m'a fait plaisir toujours de parler de cette période, de parler de sujets qui sont assez peu étudiés en France. L'art plastique ayant été en concurrence avec l'histoire de l'art, en concurrence avec l'École des Beaux-Arts a souvent été occultée. Récemment, les choses sont en train de changer, grâce d'ailleurs à de jeunes chercheurs en particulier, dont les personnes qui ont organisé le colloque sur l'enseignement de Ligia Clark, enfin les journées d'études sur l'enseignement de Ligia Clark au Centre Saint-Charles. Alors, en France, il est vrai que la question de l'enseignement artistique commence enfin à. Ou l'enseignement dans l'art, ou l'enseignement avec l'art, ou l'enseignement par l'art. Commence à trouver sa place. Bon, en particulier, Pompidou-Metz avait organisé une exposition justement sur l'art d'apprendre et sur la place de l'enseignement dans le travail des artistes et la place donc des artistes dans l'enseignement de l'art. Donc, c'est un sujet aujourd'hui qui commence à être assez travaillé en France. C'est pourquoi ça me fait plaisir de
voir oui, oui.
Et de nouveau de l'ère art plastique, qui a quand même été, il faut le reconnaître, pionnier en France dans l'enseignement de l'art contemporain. If you feel the weight, Marietta,
you'll never be late, Marietta. Un podcast conçu par Catherine Hoog et produit par Kim Stengel, avec une chanson dédiée à Ligia Clark par Caetano Veloso de 1971. Nous remercions les intervenantes ainsi que Christiane Klotz et Klaus Kovac et les directeurs des institutions respectives Anne Demister pour le Kunsthaus Zurich et Klaus Biesenbach pour la Neue Nationalgalerie Berlin. Les droits d'auteur sont auprès du Kunsthaus de Zurich ainsi que des personnes interviewées. Para ser feliz, cadê meu sol dourado? E cadê as coisas?